Alors c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Bonjour, d'abord bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Grand plaisir d'être parmi vous. Vous êtes ma première église. Donc on commence bien, n'est-ce pas? Donc je veux vous parler un peu de notre ministère, le ministère que Dieu nous a confié, nous, les Bolduc, en France, depuis une trentaine d'années. Alors on est depuis presque 30 ans en réalité en Europe francophone. Je n'ai pas passé tout mon temps en France strictement. On a eu 5 ans aussi en Belgique, mais 25 ans en France. Je vais avoir 65 ans, mais ce n'est pas encore la retraite. Le Seigneur a encore des bonnes choses pour nous, pour la suite. Alors, je dois dire que depuis que je suis dans le réseau Val d'Europe, Shell et l'église de Lagny-sur-Marne, j'ai été ancien sur deux églises. Alors, 10 ans sur le Val d'Europe. Pour situer le Val d'Europe, c'est au centre du complexe Disneyland Paris. Donc, de chez moi, où j'habite, j'entends les manèges de Disneyland Paris. Donc, nous, notre rêve, c'est de voir des gens, au lieu d'accourir vers le parc d'amusement de Disneyland, qui puissent accourir vers l'Évangile de Jésus-Christ et l'Église de Jésus-Christ. Donc, 10 ans au Val d'Europe, et je suis ancien depuis 2 ans à Shell. Donc, je travaille sur 2 églises actuellement. Donc, à Shell, sur le Val d'Europe, mais il y aura des petits changements à la rentrée, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, ce sont 2 églises pour situer Shell et Val d'Europe, 2 églises qui sont à 28 kilomètres l'une de l'autre. Vous avez sur le plan ici, Bailly-Romainvilliers, c'est là où est l'église, au cœur du Val d'Europe. Et puis à Shell, donc, je prêche 3 dimanches sur 4 et je me promène entre les 2 églises, donc Shell et Val d'Europe. Donc, parlons maintenant de l'église de Shell. L'église de Shell, c'est une église qui... en fait, est une église qui a été fondée presque en même temps que le Val d'Europe. Je dirais que Shell et Val d'Europe sont presque des églises jumelles et qui ont comme maman l'église de Lagny-sur-Marne. Shell, pour vous dire, c'est la 2e plus grande ville du département qui compte 55 000 habitants. C'est une église multiculturelle, comme j'imagine votre église l'est ici également. Alors, notre église, dernièrement, a vécu un exil de 5 mois à Champs-sur-Marne, une ville juste à côté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des promoteurs qui ont acheté le terrain où on louait des bâtiments d'église et on s'est retrouvé sans bâtiment d'église. Mais vous savez que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le peuple de Dieu. Alors l'église de Shell a continué à exister et c'est une église sœur qui nous a prêté ses locaux. Mais ça a été une épreuve pour les chrétiens de l'église de Shell de ne pas avoir de bâtiment. Et heureusement, le Seigneur nous a délivrés. Là, au début du mois d'avril, on a trouvé un bâtiment au centre-ville de Shell à nouveau. Et on peut se réunir encore au centre-ville. Et ça, c'est magnifique. Merci Seigneur pour ça. Dernièrement, on a rapporté 3 baptêmes, 3 personnes depuis octobre 2001. On a été frappé par la pandémie comme vous aussi. Ça a été très difficile, mais malgré toute la pandémie, le fait que les chrétiens ne pouvaient pas toujours se réunir, on a pu quand même faire des baptêmes. Ça, c'est magnifique. Parce que Dieu continue d'être à l'œuvre, même au milieu des pandémies. Je suis sûr que vous auriez des témoignages à rendre de ça. D'accord. Et maintenant, on va parler de l'église du Val d'Europe. Alors, vous avez un bâtiment de Disney, vous voyez un petit peu, c'est un endroit, le Val d'Europe, qui est assez riche, une population assez nantie. Donc, on peut changer la slide. L'église du Val d'Europe, c'est une ville riche au cœur du complexe Disney, je l'ai dit. Et la grande majorité de nos membres sont jeunes, des jeunes célibataires et des jeunes couples. Donc, on compte à peu près 100 de personnes dans l'église. On a un nouveau pasteur depuis l'an dernier. Donc, au milieu de la pandémie, le Seigneur a appelé un pasteur à venir nous rejoindre. Et depuis qu'il est là, ça a vraiment donné un souffle de dynamisme à l'Église. L'Église compte 4 groupes de maisons, 2 stagiaires, l'un de l'Institut biblique de Genève et l'autre de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Et donc, on veut aussi, au milieu de notre Église, former des jeunes qui vont pouvoir être dans le ministère. Et depuis novembre 2021, à l'Église de Val d'Europe, on a baptisé 6 personnes et aujourd'hui, un peu plus tôt, parce qu'il y a 6 heures de décalage, il y avait un baptême, un jeune qui s'est fait faire une greffe du cœur, qui a failli mourir et au travers de ses difficultés, ses parents ont commencé à venir à l'église, sa sœur est venue à l'église, elle s'est convertie, lui-même s'est converti et on l'a baptisé ce matin, Nicolas. Donc magnifique, le Seigneur est à l'œuvre et on est très reconnaissant pour ça. Donc je vais vous parler rapidement de la famille maintenant, parce qu'on aime toujours avoir un peu de nouvelles de la famille. Je vais parler de changement à l'horizon. Alors nous, on va changer de ministère à la rentrée, juste là au mois de septembre. Après une dizaine d'années à l'église du Val d'Europe et quelques années à Chelles, je vais basculer maintenant sur l'église de Chelles complètement à 100%. C'est une église qui a plus de besoins. Le pasteur est à mi-temps, il est prof de maths et on a un autre ouvrier qui travaille à temps plein aussi. Donc je vais aller prêter main forte à cette église-là. Objectif en allant dans ce secteur-là, c'est qu'on a une propriété dans le secteur de Chelles et on voudrait bien la vendre. Et juste quelques mois avant que j'arrive ici, là, quelques semaines plutôt, j'ai dit au revoir à l'église de Val d'Europe. C'est toujours difficile de dire au revoir avec une église où on a été pendant 10 ans au service du Seigneur. Mais on a dit au revoir, c'était très émouvant. Et donc, je me prépare pour un ministère à temps plein à Chelles, dans une église aussi où il y a peut-être 70 personnes qui se réunissent tous les dimanches. Donc, parlons maintenant de la famille. Mon épouse n'a pas fini l'année scolaire. L'année scolaire, là-bas, se termine le 8 juillet. Donc, elle va prendre l'avion et elle va venir me rejoindre le 9 juillet. Donc, Janine, elle enseigne à une école internationale à Montry, près du Val d'Europe. Elle enseigne la musique et aussi l'anglais. Et elle fait partie d'un groupe de louanges. Elle joue du piano. Et elle a mené une étude biblique pendant quelques mois avec 2 jeunes femmes pour les affermir. Et voilà, et elle aime exercer l'hospitalité, faire du jogging. Voilà pour ma femme Janine, qui malheureusement n'est pas parmi nous. Joël, mon aîné, Joël, lui, il a vécu 9 ans au Canada, il était dans la région de Montréal, et puis dernièrement, il est parti en France et il s'est installé là. Il a eu une reconnaissance de son syndrome d'Asperger. Il a le syndrome d'Asperger, il a été reconnu comme personne handicapée, et donc il va pouvoir faire une formation et être embauché avec des subventions de l'État pour pouvoir travailler là-bas en France. La société avec qui il travaille, Engie, c'est l'équivalent un peu de Hydro-Québec, une grande société qui accueille des personnes avec des handicaps et il va pouvoir, prier avec moi qu'il puisse trouver un emploi à long terme avec eux. Alors il va avoir 30 ans au mois d'août, il compte s'installer en région parisienne durablement, maintenant qu'il a trouvé sa niche à Paris, en région parisienne, il veut rester là et à la rentrée, il aimerait bien commencer à chanter dans le groupe de louanges. Ça, c'est pour Joël, mon aîné. Le deuxième s'appelle Mathieu, le grand Mathieu. Mathieu, lui, il habite dans la région de Strasbourg. Il fait un master en sociologie des religions. Il travaille dans une école à 2 pas de chez lui. Et il va avoir 27 ans au mois de décembre. Et il a en vue un travail d'éducateur spécialisé à la rentrée. Il aime vivre en Alsace. Donc, il vit à quelques kilomètres de la frontière allemande. Voilà pour Mathieu. Et Anne-Sophie, qui est juste ici, là, elle est venue avec moi. Elle vient de faire une mission de 2 mois en Pologne. Elle a travaillé avec une famille de missionnaires du Fellowship. Le mari, il allait à la frontière ukrainienne pour aider les réfugiés. Et donc, elle étudie ici, elle habite à Montréal, elle étudie à l'Université de Montréal. Elle a 21 ans. Elle est membre de l'église du plateau. Après que j'aurai fini avec vous, tout à l'heure, je vais aller avec elle. Les cultes sont l'après-midi, je vais aller à l'église du plateau avec elle. Et donc, j'ai dit, elle a passé 2 mois en Pologne ce printemps. Elle vient de rentrer il y a 2-3 jours. Et elle fait partie aussi de l'équipe de louanges. Elle joue du piano comme sa maman. Voilà. Donc, c'était pour vous donner des nouvelles de la famille. Et j'aimerais vous dire que je suis très reconnaissant et je suis rempli de gratitude pour le partenariat qu'on a avec vous, avec l'église de Longueuil. Quelques remerciements. Merci Seigneur pour les 10 ans de ministère au Val d'Europe. Merci pour une santé, une église qui est en santé et en pleine croissance au Val d'Europe. Vous savez, lorsqu'on quitte un ministère, on est triste de quitter comme si le bateau était en train de couler. Et l'Église est en pleine croissance, donc ça nous fait plaisir de pouvoir quitter une situation qui est positive comme ça. Merci Seigneur aussi parce que l'Église de Chelles qui a vécu des épreuves, des difficultés maintenant à trouver un local au centre-ville de Chelles. Priez pour notre déménagement à Champs-sur-Marne. Donc, à partir de la rentrée au mois de septembre, on va être dans une autre ville, l'adaptation, tout ça, et le temps de transition qui est devant nous. Commencer à être à 100% à l'église de Shell, ça va être un nouveau défi pour nous, et merci. Donc, merci beaucoup pour le partenariat que vous avez avec nous, la famille Bolduc. On est très, très reconnaissants. Merci beaucoup. Alors, je vais inviter maintenant Esther qui va venir faire une lecture avant le message. Esther va venir faire la lecture avant le message.
Bonjour. Alors, la lecture est dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 35 à 38, dans la nouvelle édition de Genève. Matthieu 9, 35 à 38.
Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui.
Oui, ça va? OK. Alors, je me suis présenté, je m'appelle Pierre. Je le redis encore, je suis heureux d'être parmi vous. Et je suis surtout très reconnaissant que vous m'accordiez ce grand privilège d'apporter le message de la parole de Dieu. Moi, je ne m'habitue pas et je pense que ce n'est jamais banal d'ouvrir la bouche pour apporter la parole de Dieu. C'est une grande bénédiction. Alors ce matin, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil sur le passage qu'on vient de lire dans Matthieu, chapitre 9, 35 à 38. Et je vais le relire. Je vais le relire dans une traduction un peu différente. La traduction du Semeur. Jésus parcourait toutes les villes, tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie, toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « Priez donc, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc, le Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Très bien. Alors dans notre texte ce matin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi quand je l'ai lu, ce texte, il y a une pensée forte qui ressort des paroles de Jésus. Il y a souvent des pensées fortes dans les paroles de Jésus. En fait, il y en a tout le temps, des pensées fortes. Et cette pensée forte que j'ai trouvée dans ce texte-là, c'est que Jésus avait des priorités. Vous allez me dire, c'est évident. Le Fils de Dieu, il avait des priorités, évidemment. Pourquoi il avait des priorités? Parce que son temps lui était compté. 3 petites années seulement et il allait quitter les siens. Jésus n'allait pas avoir un long ministère, une longue mission ici sur la terre. Alors comment Jésus allait-il occuper son temps qui lui était compté? Des priorités. Vous savez, les priorités, ça révèle toujours ce qui est vraiment important pour une personne, n'est-ce pas? Qui dit priorité dit quelque chose d'important pour une personne. Alors, en général, on accorde la première place dans nos affections, dans notre emploi du temps, dans notre budget, on accorde une place importante à ce qui a le plus de valeur pour nous. Vous êtes d'accord? C'est vrai, hein? Par exemple, si j'aime le sport, si j'aime le cinéma, si j'aime les réseaux sociaux, eh ben, ça va se voir dans mon emploi du temps. Ça va se voir même dans mon budget. C'est comme ça. Alors, question. Qu'est-ce qui compte le plus? Qui est-ce qui a une valeur suprême pour notre Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère? Alors notre texte ce matin nous donne 4 priorités. 4 priorités qui se trouvent au haut de l'échelle dans la vie de Jésus-Christ. Et je dirais que ces priorités, elles valent pour nous également. Autant pour notre vie personnelle que pour notre vie communautaire. Donc on a intérêt à écouter et à faire attention à ses priorités ici. Ce matin, je vais développer 4 points tout simples pendant le message. Et ces 4 points, ce sont 4 verbes en réalité. Faciles à retenir. Premièrement, retenez « proclamer ». Deuxièmement, « regarder » ou « voir ». Troisièmement, « prier ». Et quatrièmement, « envoyer ». Facile, 4 verbes. Avant de commencer par la première priorité de Jésus. Dans Matthieu chapitre 9, au tout début de notre passage, vous l'avez remarqué, Matthieu nous fait comme un résumé de la mission de Jésus. Ce qu'on a là, c'est comme un résumé de sa mission. Il nous montre à quoi ressemblait le quotidien de Jésus pendant sa courte mission sur la terre. À quoi ça ressemblait une journée type. Et là, dans le verset 38, on voit que Jésus s'est beaucoup déplacé. Je ne sais pas si vous avez cette idée de Jésus pendant son ministère qui est toujours sur la route en train de se déplacer. Jésus, en fait, il a sillonné le territoire d'Israël de long en large, d'est en ouest, du nord au sud. Il est allé dans des villes, dans des villages. Et là, on se pose la question, mais pourquoi Jésus s'est-il déplacé autant? Quelle raison est-ce qu'il avait de faire ça? Jésus s'est déplacé pour proclamer la bonne nouvelle. C'est notre premier point. Proclamer. Pour prêcher la bonne nouvelle, pour l'enseigner, pour la manifester de toutes les manières possibles, même par des signes miraculeux. Quand Jésus faisait des miracles, c'était pour proclamer la bonne nouvelle. Alors dans son évangile, Marc nous rapporte, le deuxième évangile nous rapporte que quand Jésus a commencé son ministère public, il a prononcé des paroles qui ont donné le ton à tout son ministère. Et les premières paroles qu'il a dites, ce sont celles-ci. « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez en l'évangile. » Voyez ? L'évangile. L'évangile, c'est le message extraordinaire que Dieu a confié à Jésus. C'est le message que Jésus lui-même incarne, on pourrait dire lui-même, dans sa propre personne, l'évangile. Mais pourquoi donner cette priorité à l'évangile? Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu aime les hommes. Et pour prouver qu'il aime les hommes, il a envoyé un roi. Et ce roi, il n'est pas comme tous les rois qui ont vécu parmi les hommes avant lui. Ce roi que Dieu donne au monde, ce n'est pas un roi tyrannique comme certains pays comme la France ont pu connaître. Ce n'est pas un roi mégalomane comme on en a connu dans l'histoire. Mais lui, ce roi que Dieu donne, c'est un roi parfait. C'est un roi qui plaît à Dieu. C'est un roi qui est bon. Il fait grâce. Il pardonne les péchés. Il donne une vie nouvelle. Il sauve. Et ce roi, vous l'avez compris, c'est le Messie promis. C'est le Christ. C'est Jésus et notre texte, et Jésus le dit, le roi, il est là, il est présent. Donc voyez, pour Jésus, la priorité suprême, c'est de proclamer ce message de l'évangile haut et fort, partout. Et j'aimerais dire ceci, vous le savez, je pense, il n'y a pas de message plus important que celui-là. Il n'y aura jamais de message plus important que celui-là, l'évangile. Il faut annoncer l'évangile dans les milieux religieux. Et Jésus rapporte cela, et il mentionne les synagogues pour donner un exemple de cela. Jésus allait dans les milieux religieux pour annoncer l'évangile. Mais on ne doit pas se limiter à ces lieux-là, évidemment. Il faut aussi annoncer l'évangile aux foules. Aux foules, sans relâche. Il faut que le plus grand nombre de personnes sachent. Sache quoi? Sache que le roi, il est là. Sache que le royaume est inauguré. Sache qu'on peut en faire partie. Sache que c'est possible d'en faire partie, mais comment? En se détournant de sa rébellion contre Dieu et en plaçant toute sa confiance dans le Messie. Voyez, l'Évangile. Alors moi, je prie que pour nous, Janine et moi, dans notre ministère en France, je prie que l'Évangile soit toujours au centre. Pourquoi est-ce qu'il faut prier pour cela? Parce que parfois, l'Évangile prend une place secondaire sans qu'on s'en rende compte. Que l'Évangile reste au centre, qu'il soit la priorité des priorités pour nous toujours. Je prie que l'Évangile soit la priorité dans votre vie à vous ce matin. Je prie que Jésus, que sa vie, que son message, que son amour, sa mort, sa résurrection, son retour soudain soit au centre de notre vie quotidienne. Je prie que l'Évangile continue d'être au centre de la vie de cette Église de Longueuil, l'Église de l'espoir, que l'Église de l'espoir proclame l'Évangile, l'enseigne partout, dans toutes les villes, dans tous les villages environnants. Première priorité donc, proclamer l'Évangile. Il y a plus. Alors, au début du verset 36, Jésus nous explique en fait d'où vient ce feu qui le dévore. Jésus est dévoré par un feu qui brûle dans son cœur. D'où ça vient cette envie de proclamer l'Évangile? Pourquoi est-ce que Jésus est habité de ce désir si ardent d'annoncer la bonne nouvelle? D'où est-ce que ça vient? Et là, on voit au début du verset 36, le verset « En voyant les foules ». En voyant les foules. Vous allez me dire, mais Pierre, une foule, c'est assez difficile de la louper, non? Quand il y a une foule, on la remarque, c'est difficile de ne pas la voir. Quand tu te trouves, par exemple, aux alentours du Forum de Montréal, un soir de match de hockey, ou près du Stade de France, quand tu as un match de foot à Paris, il faudrait être aveugle pour ne pas voir la foule, n'est-ce pas? Il faudrait être aveugle. Une foule, ça se voit. Question. Prenons-nous le temps de regarder la foule? Est-ce qu'on prend le temps de voir les foules? Nous aussi, je dirais que dans notre vie quotidienne, on voit toutes sortes de foules. Dans nos allées, venues, au fil de nos journées, on voit des foules. Mais parfois, on regarde ailleurs. Parfois, on passe outre. Parfois, les foules nous laissent assez indifférentes, il faut l'avouer. Parfois, les foules même nous dérangent. Ça nous empêche d'aller où on veut aller. Les foules peuvent être comme un obstacle sur notre chemin. Et je dirais même que parfois, les foules, elles nous enragent. Elles nous scandalisent. Par exemple, quand il y a des émeutes, des gens se tapent dessus, on voit au journal télévisé. Et là, on est fâché. Jésus voit les foules, mais c'est sa façon de voir les foules qui fait toute la différence. Sa façon de voir les foules qui pousse Jésus à se lever tôt le matin, à se coucher tard le soir, à aller d'une ville à l'autre, à avaler des kilomètres après des kilomètres après des kilomètres sur des routes poussiéreuses de son pays. Ce qui le pousse à faire ça, c'est sa façon de voir les foules. Comment est-ce que Jésus voit les foules? Comme un troupeau sans berger. Jésus emploie une image, je dirais, qui est une de ses préférées pour décrire la foule ici. L'image d'un troupeau de brebis. Et là, on se dit, c'est tout mignon cette image. Hein? Une belle petite brebis toute blanche, toute douce, des poils frisés, la belle laine soyeuse. C'est mignon ça, non? Il faut savoir que la brebis, c'est un animal très vulnérable. Une brebis, ce n'est pas un animal très débrouillard. Les brebis, parfois, sont têtues. Les brebis sont des animaux très dépendants. Il faut leur montrer où trouver de l'eau, où aller brouter. Il faut les guider pour qu'elles ne tombent pas dans un trou, ou pire encore, pour qu'elles ne soient pas en chute libre du haut d'un précipice. Il faut les protéger des attaques des prédateurs, des loups notamment. Donc Jésus voit les foules comme un troupeau de brebis sans berger. Et là, le parallèle à faire, il est évident. Jésus nous fait comprendre que notre monde est dans cette situation-là. Est-ce que vous voyez le monde comme ça? Inquiet, abattu, égaré, sans direction, Les amis, c'est facile d'oublier cette terrible réalité, moi, je pense. C'est facile pour moi, en tout cas, d'oublier ça. D'oublier que sans berger, notre monde, il est perdu. Vous pensez à cela parfois ? Sans berger, notre monde, il est perdu. Pensez à ceux que vous côtoyez à tous les jours. Hein ? Tout semble parfois aller tellement bien pour nos voisins, pour nos collègues de travail. On se dit, ben, regarde-lui, bon job, belle voiture, belle femme, bon mari, famille idéale, pas de problème, tout baigne. On se dit qu'ils ont besoin de rien. Hein ? Les apparences. Mais voyez-vous, Jésus voit les réalités avec les yeux de Dieu. Ma prière, mes amis, c'est que l'Église de Longueuil apprenne de plus en plus à voir la réalité au-delà des apparences, telle qu'elle est aux yeux de Dieu. Et je prie que Janine et moi, on ne perde jamais de vue la façon dont Jésus voit la foule. Qu'on apprenne à voir la foule comme Jésus la voit, inquiète, abattue, sans direction. Alors arrêtons-nous un instant maintenant à penser à tout ce qui inquiète notre monde en ce moment. Qu'est-ce qui inquiète notre monde en ce moment ? Les pandémies ? Les guerres en Ukraine ? Pouvoir d'achat ? L'insécurité ? Les problèmes environnementaux ? Et là, on pourrait continuer, la liste est longue. Qu'est-ce qui inquiète notre monde en ce moment ? Et pensez aussi à tous ceux qui sont abattus aujourd'hui à Longueuil, à cause du deuil, à cause de la maladie, à cause de la solitude, à cause du chômage, à cause des tueries dans les écoles. Et puis on ajoute encore, notre monde a besoin de repères moraux. Notre monde a besoin d'un berger. Voyez ? Jésus veut nous aider à voir le monde comme ça. Ce n'est pas naturel, il faut apprendre. Alors une fois que Matthieu nous dit que Jésus voit la foule, le plus important après, je dirais, c'est de savoir comment est-ce que Jésus va réagir à la vue de cette foule-là. Et sa réaction peut nous surprendre, je dirais, d'une certaine manière. Et je vous pose la question à vous. Comment est-ce que vous réagissez, vous, quand vous voyez quelque chose de répugnant ? Pas beau, laid. Comment est-ce que vous réagissez en face de la laideur, vous ? En général, la laideur, ça nous repousse. Il y a une répulsion. On a un réflexe de rejet devant la laideur. Jésus voit le monde tel qu'il est vraiment et il ne regarde pas ailleurs. Il ne part pas à courir dans la direction opposée. Vous voyez ? Jésus a pitié. Jésus est ému de compassion. Jésus est pris aux tripes. Il regarde la souffrance des hommes, il regarde notre souffrance droit dans les yeux et il la partage. Compatir dans son étymologie, con et pâtir, ça veut dire souffrir avec. Les choses laides de notre vie, les choses qu'on cherche à cacher le plus possible, nos blessures, nos cicatrices, nos infirmités, on en a honte, on veut les dissimuler, Jésus accepte de les regarder avec compassion. C'est magnifique. Il se peut qu'il se trouve ici quelqu'un qui est en cheminement vers Jésus. J'espère qu'il y aura des personnes comme ça aujourd'hui en cheminement vers Jésus. Si vous n'êtes pas encore fixé par rapport à l'évangile de Jésus-Christ, j'aimerais vous rappeler que Jésus, en ce moment, nous voit comme chacun de nous tel qu'on est. Jésus voit nos travers, Jésus voit nos souffrances, Jésus voit nos échecs, Jésus voit nos péchés. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous rejette pas. Le regard de Jésus est rempli de bienveillance sur nous. Et il faut dire que c'est le regard de Jésus sur nous qui change ensuite le regard que l'on porte sur Dieu. C'est le regard que Jésus porte sur nous qui change le regard qu'on porte sur sa propre vie. Il faut avoir expérimenté le regard de Jésus dans notre vie pour pouvoir voir Dieu différemment et pour pouvoir se voir différemment et voir le monde différemment. Et j'aimerais dire ceci, pour se repentir et croire en Jésus, c'est absolument, absolument, absolument nécessaire de commencer à voir la réalité comme Dieu la voit. C'est ça qui va nous permettre de se repentir. Commencer à voir la réalité comme Dieu la voit. Moi, je suis devenu chrétien il y a 45 ans. Et le jour où je suis devenu chrétien, Dieu m'a montré ce qu'il y avait dans mon cœur. Ce n'est pas très agréable. Mais c'est ce qui a tout changé dans ma vie. Dieu m'a fait voir mon péché, mais il m'a fait voir Jésus également. Il m'a fait voir sa compassion. Et ça m'a bouleversé. Alors si vous êtes déjà chrétien ce matin, souvenez-vous de la condition dans laquelle vous étiez quand Dieu vous a trouvé. Est-ce que vous pensez parfois à cela, votre conversion, quand Dieu vous a trouvé, comment vous étiez à ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez de temps en temps de la compassion de Jésus pour vous? Souvenez-vous de cela. Et sachez-le, mes amis, j'aimerais vous assurer que ce regard de Jésus qui vous a sauvé, qui a eu compassion de vous quand vous êtes converti, ce regard n'a pas changé et il ne changera jamais. Jésus a toujours autant de compassion pour vous aujourd'hui dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez qu'il en a eu quand il vous a sauvé. Amen. Donc proclamez l'Évangile. Voir les foules comme Jésus les voit. Demandons à Dieu ce matin de nous guérir de notre aveuglement qui nous empêche encore si souvent de voir la réalité comme Dieu la voit. Que Dieu mette un collyre sur nos yeux qui nous aide à voir le monde comme lui le voit. Alors quel espoir est-ce qu'il y a pour des aveugles comme nous, si souvent incapables de voir la réalité comme Dieu la voit? Quel espoir est-ce qu'il y a pour nous si on est tellement aveugle souvent par rapport aux réalités de Dieu? Alors Jésus nous donne la réponse dans la suite du passage. Le texte nous dit, Jésus a vu, Jésus a été ému de compassion. Et lorsqu'il a vu et qu'il a été ému de compassion, pour lui la solution est claire. Priez. Priez. Notre espoir de changement se trouve là. Priez. Quand on prie, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie, on abandonne l'illusion de pouvoir changer la situation tout seul, tout simplement. La prière, c'est comme une sorte d'aveu. On avoue à Dieu, je ne peux pas. Quand on prie, on reconnaît que le problème nous dépasse de loin, que la situation se trouve en dehors de nous. On reconnaît que quelqu'un d'autre a la clé et on demande à Dieu d'intervenir. Et concrètement, dans le contexte de Matthieu 9, il s'agit de se tourner vers celui qui peut seul changer notre regard. Donc ici, Jésus dit « priez, priez ». Remarquez comment Jésus appelle le Dieu qu'il prie dans notre passage. Quel titre est-ce qu'il lui donne? Il est le maître de la moisson. Il est celui à qui appartient la moisson. Chaque être humain a récolté pour le royaume de Dieu, il appartient à Dieu. Le champ à cultiver pour Dieu, c'est lui qui en est le propriétaire. Le chef de l'Église, c'est ni Yannick, ni Louis, ni Michel, ni d'autres personnes responsables de l'Église. Ici, vous le savez bien, le chef de l'Église du Val d'Europe, ce n'est pas Pierre. Le chef de l'Église, c'est Jésus, c'est Dieu. Priez le maître de la moisson. Et je dirais ceci, c'est évident, mais je le dis quand même. Il n'y a rien qui a plus de sens que de se tourner vers le maître de la moisson si on veut que quelque chose se passe dans la moisson. Pas vrai ça? C'est vrai. On prie le propriétaire de la moisson pour qu'il agisse dans son champ. C'est logique, c'est une logique implacable. C'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a le pouvoir de changer la donne et il le fait. Il le fait. Dieu transforme des vies aujourd'hui en 2022. Il redonne la vue aux aveugles. Ma prière pour la France, Ma prière pour le Québec, c'est que les chrétiens prennent à cœur la prière de Jésus ici. C'est important qu'on prenne à cœur. Ma prière, c'est qu'une armée d'intercesseurs, j'ai entendu dire que 7/24, 7 jours sur 7, 24 heures par jour, il y a des gens qui prient pour le Québec. Oui, qu'une armée se mobilise pour demander à Dieu d'intervenir dans la vie de millions de personnes au Québec, en France, partout dans le monde, pour que les gens qui se perdent se tournent vers lui. Ma prière, c'est que Dieu nous aide à voir la moisson comme Dieu la voit. Jésus nous dit ici, et on est étonné, Jésus dit, la moisson est abondante. Est-ce que c'est vrai, ça? Croyez cela? La moisson est grande, elle est abondante. C'est Dieu lui-même qui l'a préparée. Le fruit est mûr. Que Dieu nous aide à voir cela. Alors, proclamez l'Évangile. Voir les foules avec compassion. Priez le maître de la moisson. Alors, comment est-ce que Dieu veut faire pour que nous récoltions des fruits pour lui? Bonne question, ça. Quelle est la méthode de Dieu? Les amis, ce n'est pas l'argent, même s'il en faut. Ce n'est pas des techniques de marketing extraordinaires, même si ça peut parfois aider. Non. La denrée la plus rare, la plus précieuse pour l'œuvre missionnaire ici au Canada, autant qu'en Côte d'Ivoire, à Paris, à Berlin ou aux extrémités de la Terre, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Ce sont des enfants, ce sont des ouvriers, des personnes que Dieu s'est choisies, des personnes que Dieu a équipées, qu'il a formées pour aller travailler dans son champ. Voilà la méthode de Dieu. Jésus nous demande de prier pour des personnes. Étonnant, n'est-ce pas? Des personnes. Je dirais que c'est étonnant d'abord de commencer par la prière. Pourquoi? Parce que nous... Homme du 21e siècle, à notre époque, on aurait plutôt mobilisé beaucoup de personnes. On aurait pensé à une action d'envergure tout de suite, sans prendre de temps pour prier. Bien sûr qu'il faut agir. Mais Jésus dit, commence par la prière. Priez pour une intervention de Dieu auprès des hommes. Et là, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis souvent demandé, mais pourquoi Jésus veut faire intervenir des hommes dans ce processus-là? Le meilleur moyen de faire dérailler des projets de Dieu, c'est de laisser des hommes y participer. Pas vrai? Pourquoi? Seigneur, envoie des anges. On n'aura pas de problème. On prend des hommes et là, c'est des problèmes. On est des pécheurs. Et puis on se dit, Dieu peut faire ce qu'il veut dans son champ, il est capable. Il n'a besoin de personne. Alors, pourquoi des hommes? Jésus veut que des hommes participent au plan éternel de Dieu, même si c'est risqué, parce que quand on commence à prier pour quelqu'un ou pour une situation, Dieu commence à mettre un fardeau dans notre cœur pour ces choses-là. Vous remarquez ça? Plus tu pries pour quelque chose, plus il y a un fardeau qui se développe dans ton cœur. Quelle importance est-ce que Dieu accorde à la prière dans l'œuvre missionnaire? Ça m'a frappé quand j'ai relu ce texte-là. Je le connais, je l'ai lu souvent. Et là, ça m'est sauté au visage. L'importance de la prière. On a tendance à parfois l'oublier. Alors, mes amis, moi, je ne connais pas les voies de Dieu pour la France, ni pour le Canada, ni pour le Québec. Je ne sais pas ce qui va se passer pour nous dans notre nouveau ministère, dans notre prochaine étape à Shell, mais je sais bien une chose. C'est que pour que la moisson soit engrangée dans le royaume de Dieu, il va falloir dans le processus qu'il y ait des ouvriers. Et pour qu'il y ait des ouvriers, il va falloir que le peuple de Dieu tombe à genoux et demande à Dieu. C'est ce que Jésus a dit ici. Priez. Et l'étape qui suit immédiatement après la prière, c'est quoi? C'est notre prochain point, c'est l'envoi. Il va falloir que ceux que Dieu aura suscités en réponse à nos prières, il va falloir que l'Église les envoie. Alors prenons au sérieux ce matin le message de Jésus. Il y a toutes sortes de foules dans notre monde. 8 milliards d'êtres humains. Il y a des foules à Longueuil. N'essayons pas de rester à l'écart des foules. Cherchons pas à éviter à tout prix les foules. Allons à leur rencontre. Apprenons à les voir comme Jésus les voit. Il y a une moisson dans notre monde, à notre époque. Reconnaissons qu'elle est immense. Reconnaissons qu'elle a besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ, cette foule. Comprenons aussi qu'il y a un besoin d'ouvriers. Prions que Dieu les suscite. Soyons prêts à les envoyer. Vous savez, lorsque j'ai fait le dernier culte à l'église du Val-d'Europe, l'église m'a envoyé pour aller à Chelles. Et il y avait de la tristesse. On est triste de voir des personnes avec qui on s'est attaché partir. Mais mes amis, je prie que l'église de Longueuil ait cette culture de dire au revoir à des chrétiens, à des frères et sœurs qui vont être envoyés par l'église un peu partout. Et c'est ce que Dieu veut, voyez. Soyons prêts à envoyer. Moi, je suis tellement fier des églises où j'ai servi au Canada, tellement fier de l'église de Longueuil, des églises qui nous ont envoyés en France. Quelle fierté! Envoyés. Ils ont été prêts à laisser partir un de leurs serviteurs qui aurait pu être utile ici. Laisser partir une responsable de la louange qui aurait pu être utile ici pour annoncer la bonne nouvelle dans des régions où le besoin est très grand. Je suis fier de cela. On veut apprendre à être une église qui envoie de plus en plus parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Voyez ? Alors moi, j'aime bien la suite du passage, le début du chapitre 10. Magnifique. Jésus a lui-même prié toute la nuit. Les apôtres, Jésus leur a demandé prier. Et puis, vous savez, un disciple, quand Jésus dit quelque chose, qu'est-ce qu'il fait le disciple ? Il fait ce que Jésus lui a demandé, non ? C'est la définition d'un disciple. Alors, si Jésus dit prier, je peux m'imaginer que les disciples aussi, ils ont prié pour que Jésus envoie. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 10 ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Jésus choisit les 12 apôtres et il les envoie. Magnifique, non ? Jésus a prié, les apôtres ont prié. Le lendemain, Jésus a choisi les 12 et les a envoyés. J'aimerais dire ceci. Il est fort, fort possible qu'en priant, Jésus te montre que celui qui doit aller, c'est toi. Les disciples prient, « Ah, Seigneur, envoie des ouvriers !» Et Jésus, le lendemain, leur dit, « Allez-y. » Intéressant, non ? Mais attention. Envoyer des ouvriers dans la moisson, ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde va quitter son travail, va prendre l'avion pour aller à Paris. Ça ne veut pas dire ça. La moisson, elle est au Québec, elle est juste dehors, là, à côté. Autant au Québec qu'aux Comores, au Congo ou dans toutes sortes de pays qu'on connaît. Alors, soit qu'on aille au loin, soit qu'on reste là où on est, demandons à Jésus de nous donner son cœur qui a l'Évangile pour priorité. Demandons à Jésus de nous donner des yeux pour voir comme lui il voit. Demandons-lui une ferveur pour prier comme il a prié et un zèle pour agir comme il a agi, voyez. Et là, je termine. Je pense que les musiciens vont pouvoir commencer à s'approcher. Si quelqu'un ici, en écoutant tout ce que Jésus a dit dans notre passage au sujet de la foule, si quelqu'un s'est reconnu comme une brebis sans berger, si quelqu'un s'est vu comme accablé par son péché, perdu, je vous encourage ce matin à considérer la compassion de Jésus, à saisir son salut en croyant en lui. Je vous encourage à parler à Yannick ou à d'autres responsables de l'Église ici. Vous pouvez venir me parler également. Jésus est rempli de compassion. Il nous aime. Je vais prier maintenant. Alors, Seigneur notre Dieu, merci pour tes priorités. Merci pour ce passage qu'on connaît bien, qu'on a lu souvent et qui nous rappelle à quel point pour toi la proclamation de l'Évangile est le summum. incontournable, Seigneur, le message qui nous fait vivre, que le monde a besoin d'entendre. Je te remercie, Seigneur, parce que tu vois la foule, tu nous as vus un jour. Tu vois ceux qui sont perdus et tu ne détournes pas le regard. Tu vois des choses laides dans nos vies et tu ne t'enfuis pas. Tu es rempli de compassion, tu agis. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles la prière. Seigneur, tu nous donnes la possibilité de te parler à toi, celui qui tient l'univers dans sa main. Et toi, tu peux tout dans ta moisson. Aide-nous à être un peuple qui prie aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons apprendre la culture d'envoi. Nous voulons être des églises qui va envoyer des serviteurs abondamment partout où il y a des besoins pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen.